La France bouge, c'est jusqu'à 14h et en direct du Salon de l'Agriculture cet après-midi. Et c'est le moment, et Raphaël Duchemin, de découvrir la solution d'Elisabeth Assayag.
Oui, acheter des yaourts bio et en même temps soutenir les éleveurs, c'est possible, pour leur permettre notamment de joindre les deux bouts. C'est l'ambition, Elisabeth, du collectif Faire Bien.
Oui, parce que sans éleveurs laitiers bio, eh bien, nous n'avons pas de bons yaourts bio dans nos réfrigérateurs ou dans notre assiette. Ainsi, pour soutenir la filière, Faire Bien, c'est donc un collectif, a choisi de consacrer 5% du chiffre d'affaires des ventes de leur yaourt pour les éleveurs laitiers. Soutenir, c'est par exemple mettre en place un fonds pour leur reverser 5% pour leur rémunération, par exemple. 5% aussi pour leur permettre de partir en vacances, parce que les éleveurs ne partent pas ou rarement en vacances. C'est difficile de tout laisser à une personne qui ne connaît pas forcément très bien l'exploitation. Bonjour Christophe Audouin.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le directeur général les Prairies Bio et vous avez lancé ce collectif Faire Bien. D'abord, ce sont des yaourts, mais c'est un peu plus qu'un produit laitier. C'est un peu un prétexte, le yaourt.
Oui, c'est tout à fait ça. En fait, la genèse de cette histoire, c'est exactement votre point de départ. Il y a 3 ans, on discutait avec un client qui n'était pas encore un client d'ailleurs à l'époque, qui était Naturalia. Et avec ce partenaire, on avait effectivement envie, grâce à un yaourt, d'essayer d'apporter une solution à un problème de l'agroalimentaire et notamment sur les filières. Très vite, alors la solution, on l'a pas trouvée, mais très vite, on s'est mis d'accord sur 2 choses. On s'est mis d'accord sur la première chose, c'est de mettre la valeur au bon endroit et d'essayer de prendre 5% du coût d'un yaourt qui, pour nous, n'avait pas forcément une grande utilité. Je pense à des choses autour de l'emballage, la publicité, la promotion, la publicité sur le lieu de vente, et l'emmener vers les choix de filières pour justement porter ces projets. La deuxième chose sur laquelle on s'est mis d'accord très vite, c'est d'être en mode collaboratif et de ne pas trouver la solution tout seul, nous, dans des bureaux en région parisienne.
Donc vous êtes allé voir les éleveurs ?
D'associer tout l'écosystème de Faire Bien, les éleveurs, les consommateurs, les clients, les fournisseurs et une partie de mon équipe.
Alors, ce sont les éleveurs qui vous ont suggéré la solution. Comment ça a émergé et surtout comment ça marche? Je les trouve partout, vos yaourts?
Non, on ne les trouve pas encore malheureusement partout.
Ça va venir.
Ils sont chez Naturalia notamment, les comptoirs de la bio qui est une autre enseigne bio. En fait, oui, c'est ça qui est génial, c'est que la solution est venue du collectif et que sur un sujet de filière, la solution est venue de nos éleveurs. C'est François, un de nos éleveurs des 45, qui à un moment a levé le doigt et a dit « je crois qu'en fait, on a un problème ». Et ce problème, c'est le problème de la relève des fermes. Moi, François, je suis à la fin de ma carrière, je vais partir à la retraite et je ne sais pas qui va être capable de reprendre mon exploitation. Et ce sujet, j'ai l'impression qu'on ne le traite pas. Si Faire Bien pouvait traiter ce sujet-là, alors ce serait une très très bonne idée.
Donc pour pouvoir former la relève aussi, ce fonds servira à cela?
Alors exactement, donc très très vite on a identifié 2 types de solutions. Des solutions court terme et très pragmatiques et puis des solutions un peu plus long terme et structurelles. La première solution court terme et pragmatique, c'est de se servir de ces 5% pour offrir effectivement à nos éleveurs des journées pour sortir de la ferme, pour partir en vacances et mettre en place un système de remplacement. Donc en 2019 comme en 2018, ce sont 250 jours, 7 jours par éleveur, qui ont été offerts à nos éleveurs pour qu'ils puissent sortir, partir en vacances, profiter des vacances de Noël par exemple, et mettre des jeunes dans les exploitations.
Luc, notre coach.
Je pense que tout d'abord c'est une excellente initiative. Bienvenue dans le monde de l'agro. Les yaourts, c'est quand même aussi beaucoup trusté, donc ça ne doit pas être évident face aux grands groupes. Mais je suis consommateur. Comment je repère votre produit? C'est ma première question. Ma deuxième question, les 5% se calculent sur quel prix? Est-ce que c'est est-ce que le distributeur contribue aussi à l'intérieur de sa marge aux 5% ou c'est par rapport au prix de revient du produit départ de la fabrication? C'est important.
Oui. Alors, c'est sûr que la façon dont on arrive à rendre connu notre yaourt est un problème puisqu'on a fait le choix justement de peu investir dans la communication et le média. Donc on a beaucoup misé sur l'attractivité de notre pack qu'on repère instantanément en magasin, qui est magnifique et que les consommateurs peuvent trouver.
C'est une marque ?
C'est une marque, ça s'appelle Faire Bien.
Faire Bien.
Vous êtes aussi les Prairies Bio, ce sont aussi les 2 vaches, hein, ces yaourts, on les reconnaît sur fond bleu avec les 2 vaches. Mais on ne voit pas ce logo sur Faire Bien, c'est autre chose.
Ah non, c'est une initiative qui est complètement différente. Et le 5% du chiffre d'affaires dont vous me parliez, alors déjà, le premier challenge, c'était de ne pas renchérir le prix du yaourt de 5% de plus. Oui. C'est là que nos consommateurs dans le collectif ont donné leur avis. On dit, c'est très bien cette idée, mais moi, je ne veux pas que mon yaourt soit vendu 5% plus cher. Donc, il est vendu exactement au même prix. Et le 5%, c'est nous, les Prairies Bio, qui le collectons sur la vente à notre client Naturalia et qui le reversons à ce fonds pour justement offrir des journées de remplacement aux éleveurs.
Donc l'idée, c'est que ces yaourts, on puisse les trouver dans d'autres endroits pour que ce chiffre augmente, que cette cagnotte augmente et que vous puissiez reverser davantage aux agriculteurs.
Oui, c'est ça qui est magnifique dans ce projet, c'est que finalement le business est au service d'un projet qui va aider nos éleveurs justement à assurer la relève via ces journées de remplacement, mais via aussi un deuxième programme qu'on met en place. On est en train d'imaginer une formation professionnelle pour des adultes qui ne sont pas forcément issus du monde agricole, mais qui ont envie de se reconvertir en Normandie. Et donc avec le centre de formation professionnelle de Coutances, et on est en train de bâtir ce programme avec la volonté en septembre 2020 d'avoir une première promotion petite de 5-6 adultes capables d'aller dans les fermes et de se servir aussi du service de remplacement, bien sûr, pour alterner de la théorie et de la pratique.
Luc, ça se passe en Normandie, il y a quelque chose à faire.
Ah ben, il y a quelque chose à faire à côté de Saint-James. Là. Est-ce que vous voulez étendre aussi sur d'autres produits que les yaourts ?
Alors, c'est aussi l'avantage d'un projet comme celui-ci, Faire Bien, c'est qu'il n'est pas du tout apparenté à un type de produit comme lait de vache, par exemple, puisque là, c'est du lait de vache. Donc, on pourrait fort bien imaginer que Faire Bien devienne une sorte de label qu'on est capable de proposer pour tout type de problématiques filières, et notamment celle du remplacement. En laitier, c'est très très fort. Vous savez que le nombre d'exploitations laitières ont été divisées par 4 en 40 ans. On a à peu près 60% de nos éleveurs aujourd'hui partout en France qui ont plus de 50 ans. Mais on peut imaginer que dans d'autres types d'exploitations, ce soit le même genre de problème.
Vous êtes d'ores et déjà en contact avec d'autres filières pour développer justement le faire bien ailleurs et autrement ?
On est déjà en train d'essayer de stabiliser notre premier modèle, d'avoir des partenaires clients qui nous rejoignent. Oui, ça fait un an et demi. Qu'on a lancé.
Et combien d'argent collecté ? Combien d'argent rendu aux agriculteurs ?
Alors pour vous donner un ordre d'idée, pour offrir ces 250 jours de remplacement, il faut 50 000 euros. Donc c'est 50 000 euros déjà qui ont été proposés aux éleveurs. Et on espère effectivement qu'avec le projet qui grandit, on puisse avoir plus de moyens.
Alors, pas loin de Coutances, vous avez une très belle coopérative. Hein. Je la nomme parce que c'est une coopérative. Vous avez Isigny-Sainte-Mère, qui est quand même la plus belle coopérative en France. Rapprochez-vous d'eux. Je suis sûr qu'ils vont vous aider.
Merci.
Vous nous donnerez de vos nouvelles, évidemment, pour savoir si le projet est en train de grandir. En tout cas, nous, on vous soutient et on aime beaucoup ce que vous faites. Et
Merci. On
est sûr que nos auditeurs aussi vont apprécier et puis qu'ils auront envie de découvrir les produits, évidemment. Merci d'être venu nous présenter cette très belle solution aujourd'hui sur Europe 1. Il est midi 58.
Europe 1.
Et on reste ensemble, on vous attend d'ailleurs. On va pénétrer d'ici quelques minutes ensemble ici au Salon de l'Agriculture dans la ferme urbaine parce que les choses sont en train de bouger. La campagne revient, eh oui, à la ville. A tout de suite, en direct et en public.
Créateurs d'entreprises, lancez-vous. La France bouge avec BNP Paribas.
Europe 1, midi 14h. La France bouge. Raphaël Duchemin.
Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez ici en direct et en public au Salon de l'Agriculture. Nous sommes ensemble jusqu'à 14h et je vous invite aujourd'hui à pénétrer dans la ferme urbaine car de plus en plus de projets voient le jour pour que les cultures, la campagne en quelque sorte réinvestissent la ville. Et c'est d'ailleurs un besoin qui se fait de plus en plus sentir, ce besoin de retour à la nature. C'est aussi ce besoin-là qui est à l'origine d'ailleurs de la création de Merci Raymond. Bonjour Hugo Meunier.
Bonjour Raphaël.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le président fondateur de cette start-up qui a déjà 5 ans. Raymond, c'est votre grand-père. Il est agriculteur. Il est dans le Tarn-et-Garonne, c'est ça, du côté de Donzac.
Exactement, dans ce petit village dans lequel il m'a transmis la passion et où j'ai grandi. Et qui m'a donné, en venant à Paris, l'envie finalement d'entreprendre sur ces sujets et de faire comment rapporter la campagne dans nos villes. À mon échelle, et puis bah, maintenant avec l'échelle de Merci Raymond, qui grandit et qui est aujourd'hui 5 ans en avril.
Oui, parce que vous n'étiez pas du tout là-dedans au départ, et puis à un moment donné, en étant à Paris, vous avez ressenti véritablement ce besoin de revenir aux sources finalement.
Il y a de ça, effectivement. Moi, j'ai fait des études de droit et je suis monté à Paris pour faire mon Master 2. J'ai travaillé au Conseil national du numérique où je rédigeais des rapports sur les projets de loi sur le numérique. Je me suis rendu compte qu'il y avait des vrais enjeux environnementaux et il y avait beaucoup encore à faire. Un copain revenait de New York et me racontait tous ces toits, notamment la Brooklyn Grange, qui émergeait. Plus, effectivement, en creusant un peu, je me rendais compte que Paris était une des villes les moins vertes au monde. Donc, à mon échelle, j'avais envie de m'y investir, même en y connaissant rien, on va dire pratiquement au paysage ou au végétal, mais j'ai quand même utilisé mes sources de la campagne.
Donc, vous avez commencé à regarder où et comment vous pourriez remettre ça et là des îlots de verdure ?
Voilà, on a au début, l'idée c'était aussi de valoriser l'image du jardinage. Quand je l'ai dit à mes parents, je vais me lancer dans le jardinage urbain, ça les a fait plutôt sourire, ils se sont dit bon c'est quoi cette lubie qu'il a. Et puis bah, du coup je me suis rendu compte qu'auprès des Parisiens, être agriculteur urbain, être jardinier urbain, il y avait tout un travail et je me suis un peu positionné sur le format du chef de cuisine qui est dans les années 2000 a été starifié. L'idée c'était de se dire comment on fait pour que les citadins aient envie de se réapproprier les espaces verts et aient envie de les entretenir finalement et de créer des communautés de jardiniers urbains. Donc ça a été tout le leitmotiv de Merci Raymond qui aujourd'hui a pour ambition de reconnecter les citadins à la nature.
Oui, parce que vous êtes dans les rues, dans les copropriétés, sur les toits aussi.
Sur les toits, dans les sous-sols aussi. On est en train de réfléchir à des modèles d'endives. Mon beau-père est producteur d'endives du coup, dans le Tarn-et-Garonne. L'idée, c'est que pourquoi pas implanter ce type de format en ville, mais également dans les toits, dans les rues, sur les balcons, dans les entreprises. Globalement, tous les lieux peuvent recevoir de la nature en ville.
Elisabeth, l'agriculture urbaine, on le voit, hein, prend petit à petit sa place en France, un petit peu partout.
On peut parler d'un réel engouement hein, pour l'agriculture urbaine. On compte autour de 20 000 parcelles de jardins collectifs, familiaux et partagés en France, 1 000 en région parisienne. Ce qui est certain, c'est que c'est en très très forte augmentation constante sur tout le territoire. Hein. On dénombre environ 300 fermes en agriculture urbaine au niveau national. Hyper difficile de les comptabiliser réellement parce qu'il y en a certaines qui apparaissent, d'autres qui disparaissent aussitôt. Donc là aussi, c'est un peu compliqué. L'idée principale, c'est de se réapproprier notre espace urbain. Au niveau mondial, quelques chiffres. Aujourd'hui, ce sont 800 millions de personnes qui sont impliquées dans un projet d'agriculture urbaine et périurbaine d'après l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, la FAO.
Alors, comment est-ce que vous procédez justement avec Merci Raymond ? Vous ramenez de la terre, le premier projet, tiens par exemple, il est né comment ?
Alors un premier projet déjà, alors juste pour rebondir sur ces chiffres, effectivement oui. L'agriculture urbaine c'est aussi important de donner une définition à cette notion-là. Aujourd'hui on se rend compte que typiquement pour nourrir une ville comme Paris, il faudrait à peu près 650 000 hectares pour produire et être autosuffisant alimentairement.
Ouais, et en région parisienne on est juste à 880.
Exactement, voilà. Donc du coup, il y a tout un travail aussi sur les missions de l'agriculture urbaine. Nous, à notre échelle, Merci Raymond, la mission qu'on s'est donnée, c'était aussi de reconnecter à la terre et notamment à l'alimentation. Finalement, les personnes qui font de l'agriculture urbaine, qui entretiennent leur potager, on se rend compte qu'ils sont plus nombreux à consommer 5 fruits et légumes par jour. Donc il y a toute cette notion de pédagogie, de sensibilisation. Et à notre échelle, on a notamment ouvert un restaurant, donc le Relais Restaurant dans le 11e arrondissement. Ce projet, il est né de l'envie d'aller de la graine à l'assiette et de se dire on a un toit potager de 350 m2, on fait de la production verticale avec nos chefs jardiniers et ensuite on sert localement. Et donc là, je fais un petit clin d'œil à Agricool puisqu'on a la chance d'avoir les fraises Agricool qui sont aussi au restaurant dans les desserts.
Ils sont avec nous et qui auront la parole d'ici quelques minutes. Moi, ce qui m'épate dans votre projet, c'est comment effectivement vous êtes resté à l'écoute. Vous êtes parti d'une idée de départ qui était on va remettre du végétal et puis petit à petit, le projet a grandi et grossi pour finalement s'adapter aux besoins de la ville.
Ça a été étape par étape. Moi, l'entreprise, je l'ai lancée avec 5000 euros au début. La volonté, ça a été de se dire, bon, on ne va pas lever de fonds parce qu'on n'a pas de modèle économique encore à notre échelle. Et donc, en fait, on va aller rencontrer tous les acteurs qu'on a en tête, ceux qu'on aime bien, avec qui on aimerait travailler, que ce soit les villes, les entreprises, les collectivités territoriales. Et on va comprendre aussi le besoin. Donc, au début, on a compris qu'il y avait un besoin de végétalisation. Donc, on s'est un peu orienté sur ce marché-là. Et depuis plus de 2 ans, on va aussi sur le secteur de l'agriculture urbaine, notamment avec le recrutement d'ingénieurs agronomes. Et on a tout récemment, notamment une ingénieure financière qui nous aide aussi sur ces modèles économiques associés à des fermes. Et juste pour terminer, il y a tout un enjeu de créer de l'agriculture urbaine, mais aussi périurbaine. Donc, nous, aujourd'hui, on se positionne surtout sur le périurbain.
On va en parler, ne vous inquiétez pas. Je voudrais donner la parole à notre coach, Luc. Qu'est-ce que vous pensez de ce projet ?
C'est un super projet.
Mais
ça marche bien. Est-ce que vous êtes allé aussi en dehors de Paris ? Et oui,
C'est une très bonne remarque. Effectivement, nous, depuis 3 ans, notre mission, ça a été de se dire on ne s'adresse pas qu'aux bobos parisiens du 11e arrondissement et on va finalement aller dans des quartiers notamment difficiles. Et on s'est dit, si on arrive dans ces quartiers compliqués à mener nos actions, bah, peut-être que cette duplicabilité pourra se faire encore plus. Et donc, on est allé à Grigny, à la Grande Borne, donc dans des quartiers assez sensibles, où on a permis aux habitants de se réapproprier leur quartier. Suite à ça, on a été sollicité par d'autres bailleurs sociaux pour aller à Stein, à Sartrouville, mais aussi à la Cité des Musiciens, au Mureau. Et aujourd'hui, on est sur des modèles qu'on construit sur des dizaines d'années avec tout un système de périurbain, de développement finalement mobile de ces fermes agricoles avec l'ambition à chaque fois de créer de l'emploi localement.
L'idée, c'est vraiment d'être le trait d'union entre les fermes à l'extérieur de la ville et la ville, de reconnecter, comme vous le dites, l'urbain et le périurbain.
Exactement, et c'est aussi la mission de l'agriculture urbaine. Finalement, elle bénéficie aujourd'hui d'une image hyper positive par rapport à la filière de l'agriculture traditionnelle. Donc c'est aussi cette mission de soutenir cette agriculture. L'agriculture urbaine permet de faire le lien entre l'agriculture traditionnelle et l'agriculture urbaine. Et on a, donc nous, on s'inspire de modèles qui sont différents de ceux d'Agricool ou d'Agripolis, qui sont finalement le côté permaculturel, où nous, on va essayer de bénéficier des terrains en pleine terre. Malheureusement, en ville, beaucoup sont pollués. Donc on essaie d'aller sur ces anciens sites maraîchers aux portes de Paris, mais aussi aux portes d'autres villes. Là, on est en train de travailler notamment au Duché du Luxembourg sur des projets de quartiers de 10 hectares. Et comment, à l'échelle d'un quartier de 10 hectares, on se pose la question dans 15 ans, quelles seront les pratiques d'urban farming dans ces sites?
Vous avez aujourd'hui combien? Une vingtaine de sites où vous produisez, par exemple, vos légumes?
On a à peu près une 20-30aine de sites, oui. Mais surtout, on a des ambitions d'ouvrir des plus grandes fermes, donc là, entre 1 et 3 hectares.
Et d'aider des villes à faire aussi cette conversion, parce que vous travaillez avec Alfortville, par exemple.
On travaille avec des villes qui nous sollicitent sur comment valoriser les espaces verts, aussi comment remobiliser les personnes qui entretiennent ces espaces verts. Il faut savoir qu'aujourd'hui, celui qui arrose une plante, il ne fait pas que arroser une plante. Ici, il a une mission d'intérêt général, puisque ça bénéficie à tous les citoyens.
Luc ?
Oui, et je regardais sur votre site, vous avez d'autres supports, vous parliez de collection de vêtements, qu'est-ce que c'est?
Alors, à l'origine de Merci Raymond, comme je disais tout à l'heure, l'ambition...
C'est le patron des Tricots Saint-James a tout vu. Hein.
C'était de créer une communauté en fait, de jardiniers, une communauté urbaine, et l'idée c'était quel est le meilleur moyen de communiquer et d'appartenir à cette communauté, c'est finalement le porter sur soi et se sentir accepté par ce collectif. Et donc on avait lancé une collection capsule, à l'époque c'était pendant la COP21, on l'avait lancé avec Colette et le Bon Marché, et donc c'était jardinier parisien, carotte locale, des messages assez engagés. Aujourd'hui on le fait avec des marques comme Opal, qui eux travaillent sur toute la question de la filière éco-responsable du textile.
Avec la fabrication française.
Oui. Avec
Opal,
la fabrication
oui, bien
française,
sûr.
Exactement.
Et c'est sur le, qui travaille beaucoup sur le plastique, hein, sur justement... Oui. La problématique du plastique, Opal. On reste ensemble et je vous propose qu'on continue à parler de cette agriculture urbaine aujourd'hui sur Europe 1.
Il est 13h18.
Europe 1.
Quand on est fils d'agriculteur, il y a toujours un moment où l'on revient à la terre. C'est ce qui se passe pour les fondateurs d'Agricool. A tout de suite.
La France Bouge est en direct du Salon de l'Agriculture cet après-midi pour parler de l'agriculture en milieu urbain. Qui sont ces Français qui innovent? Si vous souhaitez réagir, il y a Twitter, hashtag Europe 1. Vous pouvez aussi nous appeler Raphaël au 3921.
Oui, quand on a grandi, Céline, sur une exploitation agricole, on veut parfois en partir, faire autre chose. Mais à un moment, on est en quelque sorte rattrapé par la terre. C'est ce qui s'est passé pour vous. Guillaume Fourdinier, bonjour.
Bonjour Raphaël.
Merci d'être avec nous. Vous êtes l'un des fondateurs d'Agricool, créé elle aussi, décidément, il y a 5 ans. Vous avez grandi dans le Pas-de-Calais et après un début de carrière dans le commercial, vous avez en 2015 eu l'idée d'Agricool. L'idée, c'était justement d'offrir aux citadins que nous sommes des légumes, des fruits qui poussent juste à côté de chez eux. Comment elle est née, cette idée?
Eh bien, justement, elle est vraiment née du cœur. Parce qu'en effet, je suis fils d'agriculteur, je suis petit-fils d'agriculteur, mon petit frère reprend la ferme et au final, cette alimentation locale dont j'ai pu bénéficier, j'avais pas accès à ça à Paris. Et voilà, qu'est-ce que ça veut dire manger localement quand on habite dans une ville comme Paris? C'est quelque chose qui est accessible à la campagne, pas dans les grandes villes. Et du coup, l'idée, c'était de dire comment on peut justement changer un peu ça et permettre à plus de gens dans les grandes villes d'accéder à de l'alimentation qui soit locale.
Alors, vous l'avez dit, hein, ça n'est pas évident. Pour faire pousser les cultures dans la ville, il faut trouver d'abord des espaces. C'est comme ça que vous avez eu l'idée des containers ?
Oui, alors l'idée des containers, c'est vraiment, on a supprimé tous les préjugés, les certitudes qu'on pouvait avoir sur comment on pouvait faire pour produire. L'idée, c'est de se dire, il faut qu'on soit capable d'être viable en créant des fermes qui puissent être viables et produire des fruits et légumes qui puissent être distribués directement aux gens, qui produisent sans pesticides, qui produisent en utilisant le minimum de ressources et le maximum de rendement. Et c'est comme ça qu'on a eu cette idée de container, qui est un peu une brique de Lego qu'on peut mettre dans les espaces urbains.
Alors le premier, je crois qu'il était Parc de Bercy, c'est ça ?
Exactement, en face de la Cinémathèque.
Et alors qu'est-ce qu'il y a dans ce premier container ? Qu'est-ce que vous avez mis ?
Alors en fait,
vous avez choisi ce que vous alliez y mettre ?
On a fait des fraises. On a commencé par des fraises parce que justement, on avait ce manque du goût des fruits et légumes et les fraises en étaient vraiment le...
Oui, la fraise parisienne, c'est quand même pas une évidence.
Non, c'est clair. Et puis, il faut savoir qu'une fraise, quand elle est récoltée, 3 jours après, elle a déjà perdu la moitié de sa valeur nutritionnelle, la moitié de ses vitamines. Elle a perdu son goût. Et donc, c'est vraiment important d'être capable de la consommer juste après sa récolte. Donc, voilà, essayer de redonner finalement le goût d'une vraie fraise directement au milieu de Paris, c'était un challenge qu'on trouvait passionnant.
Et alors, vous y cultivez 3600 fraisiers, c'est ça ? 3600, j'ai le bon chiffre ?
Alors oui, le premier c'était 3600, aujourd'hui c'est un petit peu différent. On a une ferme avec plus de containers, notamment qu'on vient d'installer à la Courneuve. Mais en effet, donc, on recrée un paradis pour fraises et pour fruits et légumes à l'intérieur de ce container, avec des murs verticaux, comme des murs végétaux, sur lesquels on va faire pousser ces fraisiers, avec un circuit fermé avec l'eau et les nutriments, des bourdons...
Oui, alors ça, c'est intéressant. Vous avez recréé à l'intérieur un écosystème qui permet justement aux fruits de pousser. Vous êtes allé chercher finalement tous les ingrédients qui vous permettaient de faire ce qu'il y avait de mieux, de trouver le fruit le plus résistant. Vous avez fait une sélection aussi pour ça ?
Alors l'objectif, c'était vraiment d'avoir les fruits qui puissent être les meilleurs possibles. Donc justement, le côté fruits résistants, on n'avait pas forcément besoin, puisque derrière, il y a un maximum... 3 à 15 km entre finalement le container et l'assiette. Mmh. Donc on a besoin d'avoir des fruits qui puissent être vraiment excellents, avoir le plus de vitamines possible. Donc on a choisi des variétés qui puissent être les meilleures possibles. Et ensuite, on s'est tout adapté autour.
Donc, moi, je pensais naïvement peut-être que chaque chose poussait à un endroit particulier parce qu'elle avait soit besoin de soleil, soit besoin de pluie. Comment est-ce que vous faites pour faire pousser des fraises dans ce container, du coup ?
Eh bien oui, on doit recréer finalement ce paradis pour la fraise. C'est-à-dire si on se disait, si on devait inventer un paradis pour cette variété de fraises, lequel ce serait ? Et donc quelles conditions on doit mettre dedans ? Donc c'est là qu'on a fait beaucoup de recherche et développement aussi, pour être capable finalement aujourd'hui de produire presque 100 fois plus au mètre carré en utilisant 90% moins d'eau, 90% moins d'engrais ou pas de pesticides.
Alors on a beaucoup parlé des fraises, ça ne s'arrête pas là. Depuis la fin 2019, vous avez de nouveaux containers qui ont été mis en place pour du basilic, du persil, de la coriandre. Comment est-ce que vous faites pour ramener la terre, pour tout ça, c'est réfléchi avant ? Chaque culture a besoin de choses différentes.
Alors oui, alors nous on n'utilise pas de terre, on a justement un circuit fermé avec de l'eau et les nutriments, ça s'appelle de l'aéroponie, qui nous permet de ne pas utiliser terre et d'utiliser 90% moins d'eau. Alors pourquoi aussi ? C'est parce qu'en effet on produit dans des environnements qui sont extrêmement urbains, et donc on a essayé justement de faire pour qu'on puisse avoir toutes les vitamines et tout le goût, sans avoir besoin de ramener des camions de terre dans la Courneuve. Ouais.
Notre coach, Luc Le Sénécal.
Moi je suis assez fasciné. Ça fait un peu quand même un côté science-fiction dans les films qu'on voyait il y a quelques dizaines d'années qui nous projetaient en 2020. Ma question, comment vous distribuez les produits ? Est-ce qu'on vient soi-même collecter, ramasser les fraises ? Comment ça se passe ? Ou vous avez des distributeurs, des marchés locaux ? Parce que vous dites qu'il faut essayer de distribuer le plus vite possible pour que la fraise notamment garde toutes ses qualités. Comment vous faites ?
Bah oui, alors du coup, on est distribué dans des points de distribution assez classiques. On est distribué par exemple chez Monoprix, dans 5 Monoprix dans Paris. On est à la Grande Épicerie pour montrer justement aussi la qualité, sur la Belle Vie. Donc on est sur des modèles de distribution assez classiques qui sont dans les 15 km maximum autour de la ferme. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'on a envie que ça soit accessible. Et encore une fois, dans la mission d'Agricool, il y a rendre l'alimentation locale accessible du maximum de monde. Donc on veut essayer de rentrer dans le quotidien des gens en étant directement dans les supermarchés dans lesquels ils peuvent être.
Et alors, vous dites aujourd'hui à la Courneuve, puisque vous en avez parlé, vous êtes installé à la Courneuve, on va être en capacité de nourrir une partie de la ville.
Alors, dans cette ferme, dans cette ferme de la Courneuve, pour donner quelques chiffres, on doit pouvoir produire 1000 barquettes de fraises par semaine. 5000 barquettes de salades et d'herbes aromatiques par semaine.
Les salades qui arrivent au mois de mars, hein, c'est ça?
Exactement, c'est les prochains produits qui arrivent, donc c'est des mix de jeunes pousses. Et donc finalement, on va être capable de... Voilà, on peut dire presque par exemple 1000 familles qui peuvent bénéficier toutes les semaines de produits locaux, agricoles. C'est qu'un début, évidemment, il va falloir le multiplier, mais ça fait partie des briques et je pense que c'est un complémentaire de toutes les autres solutions d'agriculture urbaine qui vont permettre d'accélérer justement l'alimentation locale dans une ville comme Paris.
Elisabeth, on parle d'agriculture urbaine. Ça démarre où, l'agriculture urbaine ?
Ça démarre à New York dans les années 90. Dans le New Jersey, il y avait eu la plus grande ferme verticale du monde, 12 étages. Tout était installé à l'intérieur. Tout était contrôlé par des ordinateurs avec des cultures hors sol réalisées grâce à l'aéroponie. Vous venez d'en parler, Guillaume Fourdinier. L'aéroponie, donc, pas de terre, mais eau plus nutriments. Les racines des plantes sont à l'air libre, alimentées par ces projections d'eau et de nutriments. Et cette technique de l'aéroponie permet de produire, et on le voit avec vous, on le constate avec Agricool, de produire 10 fois sans pesticides en consommant 95% moins d'eau que dans une ferme traditionnelle, et le tout sans déchets.
On reste ensemble et on continue à parler agriculture urbaine aujourd'hui sur Europe 1.
Il est 13h28.
Europe 1.
Et vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses qui se font puisque les fermes peuvent être partout en ville demain. C'est ce que veut montrer Agripolis. A tout de suite.
Créateurs d'entreprises, lancez-vous. La France bouge avec BNP Paribas. La France bouge qui est en direct du Salon de l'agriculture cet après-midi pour parler de l'agriculture en milieu urbain avec nos invités, des entreprises françaises qui innovent dans ce domaine. Si vous souhaitez réagir, leur poser des questions, c'est simple. Il y a Twitter, hashtag Europe 1 ou alors vous nous appelez au 3921, Raphaël.
Oui, et puis vous pouvez venir nous rejoindre aussi puisque nous sommes en public au Salon de l'agriculture, ici sur le stand des produits laitiers, le stand du CNIEL. Et nous sommes avec Pascal Hardy. Bonjour Pascal.
Bonjour.
On est ravis de vous recevoir. Vous êtes le président d'Agripolis et de Nature Urbaine. Alors Agripolis, on va expliquer ce que c'est. Vous installez des fermes urbaines, fermes urbaines un peu particulières. Et je crois que l'idée vous est venue, on parlait des États-Unis justement en regardant ce qui se faisait là-bas.
Oui, j'avais repéré une technique qu'on appelle les colonnes de culture, mais qui au départ était plutôt faite pour des particuliers. Et l'idée de départ était d'utiliser cette technique pour installer des grands sites, des fermes urbaines.
Des grands sites, qu'est-ce que c'est un grand site? Jusqu'à quelle taille on peut imaginer installer une ferme urbaine aujourd'hui dans une de nos villes?
Écoutez, il y a un an, je vous aurais répondu 800 mètres carrés, c'est déjà très très bien. Et puis, il se trouve qu'on est en train d'installer une ferme qui fait 14 000 mètres carrés. Donc, ma réponse a évolué dans le temps.
14 000 mètres carrés. Combien de fermes aujourd'hui installées par vous?
Nous en avons installé 9, ce qui ne veut pas dire que les 9 sont en exploitation, puisque ça a été 3 années de mise au point et de réflexion autour des sites que l'on pouvait accéder.
Quelles sont justement les difficultés d'implantation? On peut mettre une ferme urbaine un peu partout aujourd'hui?
Non, pas partout, mais nous avons choisi une voie technique, je dirais, médiane entre Agricool, qu'on vient d'entendre, qui travaille dans des milieux qui sont maîtrisés, et puis merci Raymond, c'est une voie médiane qui permet d'aller à la fois au sol ou sur un toit, en extérieur comme en intérieur. Et donc... Ça permet d'élargir les cibles de sites potentiels.
Les cibles de sites et peut-être aussi ce qui pousse dans ces fermes?
Tout à fait. Nous sommes en mesure de produire environ une trentaine d'espèces de fruits et légumes, sachant qu'il y a beaucoup plus de légumes que de fruits, puisqu'en général, les fruits poussent sur des arbres. Donc pour les fruits, ça se limite aux fraises et aux framboises.
Alors, on n'a pas parlé de votre histoire, mais c'est important aussi parce qu'au départ, vous n'étiez pas du tout non plus dans cette branche-là.
Oui.
Les choses ont changé pour vous. Il y a eu un accident de la vie, comme on dit. Et puis, vous avez pris une autre direction. Vous avez d'abord fait une première société dans le monde de l'économie circulaire et puis Agripolis.
En fait, Agripolis n'était absolument pas prévu. Puisque cette idée, à partir des colonnes de culture, je voulais au départ simplement faire quelque chose sur le toit de mon immeuble. Et puis j'ai mis un stagiaire agronome, puis deux, et puis de fil en aiguille, en fait, j'étais obligé de laisser tomber l'autre société.
L'autre société qui s'appelait Inex Circular.
Qui existe toujours, et c'est un des associés d'origine qui l'a fait fonctionner.
Luc Le Sédécal.
Oui, Raphaël, j'ai une question qui me taraude depuis le début de l'émission.
Comment vous faites en milieu urbain avec l'air qui est quand même plus pollué, notamment à Paris? Comment ça se passe?
Alors, nous avons choisi une technique qui fait que l'ensemble des nutriments et de l'eau qui arrivent aux plantes, et notamment aux racines des plantes, puisque c'est par les racines que les plantes absorbent la pollution urbaine, ne soit pas capté. Donc en fait, on se retrouve avec une technique qui est quasiment imperméable à la pollution urbaine, puisque ces liquides ne sont jamais en contact avec l'air ambiant. Et donc c'est assez paradoxal, c'est contre-intuitif, mais on a des productions qui peuvent être plus saines que certaines productions en pleine terre en Île-de-France.
C'est bluffant. Hein.
Bluffant. D'autres villes aussi, c'est...
Alors, nous sommes présents dans Paris, nous sommes présents en banlieue proche, à Boulogne, par exemple. Nous sommes présents dans des banlieues plus lointaines, comme Sainte-Geneviève-des-Bois. Et puis, depuis cette année aussi, en région, le premier site étant à Bordeaux, dans un nouveau quartier en face du centre-ville.
Elisabeth, on a, je crois, une expérimentation ici, au sein même du parc des expositions.
Une énorme ferme urbaine qui sort peu à peu là, du béton. C'est un test pour évaluer la capacité des villes à se nourrir elles-mêmes, un jour au moins partiellement. En principe, elle va être terminée d'ici 2022. Et on pourra dire à ce moment-là qu'on a droit à la plus grande ferme urbaine sur un toit en Europe. Elle devrait compter 14 000 m2 cultivés par une vingtaine de maraîchers pour produire au moins une tonne de fruits et légumes par jour. Ça, c'est l'objectif, une tonne de fruits et légumes par jour en haute saison.
Et alors, du coup, l'agriculture urbaine pourra nourrir les villes?
Alors ça, c'est tout un débat. Hein. Peut-être que certains d'entre vous diront oui, diront non. En tout cas, elle pourra y contribuer, ça, c'est certain. Ces fermes urbaines, c'est aussi une opportunité, une formidable opportunité pour nous permettre de nous reconnecter, nous, les êtres humains, à cette nature qui a eu tendance à s'enfouir là, sous le béton pendant des années, trop longtemps, et aussi de nous faire prendre, nous, conscience du travail qu'il y a à faire pour produire tout simplement des fruits et des légumes.
Pascal Hardy.
Oui, sur le fait de nourrir ou pas les villes, je pense que c'est un faux débat. On sait très bien qu'en termes de surface, on ne va pas trouver les mêmes surfaces qu'en plein champ. Je pense que déjà l'objectif de contribuer à nourrir les villes sur des productions qui sont particulièrement adaptées et qui ont besoin de ce côté local. Guillaume citait les fraises tout à l'heure. Nous, on fait aussi des fraises, mais aussi des tomates, des choses comme ça. C'est déjà très, très bien, très important. Ne fixons pas des objectifs qui ne sont pas atteignables.
Objectif pas atteignable, alors jusqu'où on peut aller justement? Est-ce que vous avez des idées déjà de développement? Comment est-ce que vous voyez les choses, vous, en ce qui vous concerne?
Ce qu'on cherche à faire, c'est à multiplier des surfaces qui ne sont pas accessibles normalement par d'autres techniques. Le fait d'être très léger avec des systèmes de colonnes et de gouttières de culture, par exemple, permet d'aller sur des toits où on ne peut pas mettre de terre. Mais il faut penser une ferme urbaine comme étant non pas une unité de production, mais quelque chose qui va être en relation avec son milieu. Donc, par exemple, ici sur Nature Urbaine, on va produire un certain nombre de légumes et de fruits, mais on va aussi faire de la pédagogie, des visites, des ateliers, etc. Louer des carrés parisiens pour ceux qui veulent vraiment venir toucher la production, faire eux-mêmes, etc. Et donc, il faut le concevoir comme un milieu et aussi comme un écosystème de distribution. Ça n'a aucun sens d'aller mettre une ferme urbaine dans un endroit où autour il n'y a pas d'habitants. Donc ça reste une conception globale d'un système qui doit interagir avec son milieu.
On reste ensemble et on continue à débattre justement sur la place de ces fermes urbaines aujourd'hui sur Europe 1.
Il est 13h38.
Europe 1.
Et on vous attend ici, en direct, en public, avec vos questions, mais aussi sur Twitter, hashtag Europe 1 et au 3921.
La France bouge est en direct du Salon de l'agriculture cet après-midi. On parle d'agriculture en milieu urbain. Raphaël Duchemin avec vos invités.
Oui, nous sommes avec Hugo Meunier, président fondateur de Merci Raymond, qui végétalise les lieux, les entreprises, mais pas que. Guillaume Fourdinier, fondateur d'Agricool, des containers qui produisent des fraises, mais pas seulement. Hein. Il y a d'autres choses aujourd'hui et qui a ouvert une ferme. Et puis Pascal Hardy, qui est président d'Agripolis, ferme à ciel ouvert dans différentes structures de France. Notre coach aujourd'hui, c'est Luc Le Sénécal, qui dirige les Tricots Saint-James et qui est aussi président des métiers d'art et du label des EPV, évidemment, à mes côtés, Elisabeth Assayag. On parlait de ce débat qui nous agite sur la manière dont on doit concevoir aujourd'hui la ferme urbaine. Est-ce que c'est un complément à nos campagnes? Est-ce que finalement les villes pourront être autosuffisantes? Vous nous disiez, Pascal Hardy, non, ça ce sera pas possible, faut pas l'envisager, faut que ça reste finalement main dans la main avec les campagnes.
Tout à fait, et j'ajouterais en lien avec l'agriculture régionale. Il y a un certain nombre de choses qu'on ne peut pas faire en agriculture urbaine.
Certaines cultures qui ne pousseraient pas de toute manière dans les
villes.
Voilà,
tout à fait. Et puis, il y a des complémentarités à jouer. Ce que font très bien les Canadiens, il y a notamment les fermes Loufa. En fait, ce qui est vendu sur les fermes, c'est un mix entre les productions de la ferme urbaine et puis des productions locales d'agriculteurs de la région. Et je pense que c'est un modèle qui est intéressant.
Luc, vous aviez une question.
Oui, une question un peu économique. Vos coûts de revient, vos coûts de production, est-ce que c'est plus compétitif? Est-ce que ça revient plus cher que... Est-ce qu'il ne faudrait pas non plus faire du dumping par rapport à nos producteurs normands, nos producteurs nationaux, nos agriculteurs, quoi.
Alors, il y a une question de positionnement, je pense que je peux... Oui. Sur ce point,
vous allez répondre tous les trois.
Oui, sur un point pour les trois, c'est-à-dire qu'on mise plutôt sur des productions qualitatives. On ne va pas aller concurrencer les tomates, je dirais, bas de gamme qui peuvent venir de très, très loin. Mais on est tous à la recherche, effectivement, d'un modèle économique équilibré. Et l'économie globale de l'agriculture urbaine aujourd'hui est encore relativement précaire. Donc, en ce qui nous concerne, pour Agripolis et Nature Urbaine, qui est ce fameux...
Dont parlait Elisabeth tout à l'heure.
Voilà, oui. sur le toit de la Porte de Versailles.
Énorme projet,
Oui.
Non, c'est vrai.
Tout à fait. Ce que l'on vise, c'est d'une part de vivre des productions, mais aussi d'un certain nombre d'activités autour, la location des carrés parisiens, des visites, des ateliers, etc. Donc on est sur un modèle économique mixte aujourd'hui.
Hugo Meunier ?
Effectivement, en complément, nous, aujourd'hui, le parti pris qu'on a eu, c'était aussi de valoriser ce produit issu de l'agriculture urbaine et, de, comme disait Pascal, de ne pas le vendre au prix au kilo, mais plutôt à travers cette expérience. Et donc, notamment, nous, c'est dans la restauration. Donc, on a recruté un chef, on a recruté un manager d'un restaurant et on a utilisé ces produits à travers des goûts et des associations avec des produits, certes, issus de l'agriculture urbaine, mais aussi périurbaine, tout en réduisant à chaque fois le nombre de distances affichées.
Guillaume Fourninier.
Pour compléter sur ce que vous disiez tout à l'heure, la FAO dit qu'il doit y avoir à peu près 20% de la consommation des villes qui doit être produite en ville d'ici à 2030. Donc c'est quelque chose qui est vraiment poussé et qui est important. Mais par contre, c'est de l'alimentation locale, c'est pas de l'alimentation uniquement de production urbaine. Et je pense que ça, c'est vraiment important, c'est ce que disait Pascal, c'est-à-dire que c'est un complément entre ce qui va se passer en dehors de la ville, en périurbain, dans la campagne, ce qui va se passer avec des fermes urbaines de différents types qui va justement fournir cette alimentation-là. Donc ça représentera toujours qu'une partie de la ville, probablement 20-30%, et ça doit être un complément entre tous les types d'agriculture locaux qu'on peut trouver.
Guillaume, quel est le prix de vos fraises? La barquette chez Monoprix?
Nous, la barquette de fraises chez Monoprix, elle est vendue aujourd'hui 2,99 les 125 grammes. C'est à peu près ce qu'on peut trouver en bio.
Donc vous respectez les prix, c'est bien.
Oui, tout à fait.
Je crois qu'on a une question pour vous, justement, d'Olivier Sarrazin sur Twitter, qui nous demande quel est votre modèle économique.
Alors, le modèle économique d'Agricool, c'est tout simplement qu'on est une marque de fruits et légumes. Donc, vous pouvez retrouver la marque fruits et légumes Agricool directement en magasin et on vend des fraises, des herbes aromatiques et bientôt des mix de jeunes pousses.
Vous avez la possibilité aujourd'hui d'investir un petit peu tous les endroits. On pense par exemple aux friches industrielles. C'est quelque chose qui vous intéresse, qui peut être une base de départ pour vous installer chez Merci Raymond, par exemple.
Nous, ça nous intéresse ce type de site. Après, c'est des sols qui sont généralement pollués. Il faut savoir que la ville a été construite sur la ville et ces sites-là sont généralement très pollués, c'est nocif, c'est dangereux. Donc, on va plutôt produire sur du hors-sol ou alors dans des bacs. Ou alors, il va falloir faire tout un travail de dépollution, mais ça coûte extrêmement cher. Et là, ça va nécessiter les forces des pouvoirs publics ou...
Dépollution des sols qui n'est pas forcément utile suivant le modèle qu'on utilise, je suppose, Guillaume.
Oui, tout à fait. Nous, on peut être sur n'importe quel type de terrain et du coup, surtout, on va essayer de ne pas aller sur les terrains où on pourrait produire autrement. Ou par exemple, Merci Raymond pourrait produire différemment. Donc, je pense que c'est
si vraiment... on a besoin de terre, vous le laissez à Merci Raymond.
Et si on a besoin d'un toit, voilà, pareil, nous, on n'ira pas mettre un conteneur sur un toit, on laissera Pascal. Donc, c'est vraiment important de choisir justement où on va. Nous, on va chercher avec Agricool à se mettre autour de la ville, là où finalement, avant, il y avait potentiellement une ceinture maraîchère qui a pu disparaître par de l'urbanisation intensive et qui aujourd'hui peut redevenir productrice de fruits et légumes.
Pascal Hardy.
Oui, nous, ce qu'on va chercher à faire, c'est être près des lieux de population, de distribution. Et ça a du sens d'installer une ferme urbaine, en ce qui nous concerne Agripolis, près d'un hypermarché, près d'un restaurant collectif de grande taille, tout autant que sur un centre commercial ou au milieu d'un bassin de population. Et ce qu'on va, le modèle que l'on pousse maintenant, c'est d'installer nous-mêmes des agriculteurs, des exploitants indépendants. Parce qu'il est évident qu'on ne peut pas manager des équipes et mener des projets aux quatre coins de la France depuis un point, en l'occurrence Paris. Ça n'a aucun sens. Donc l'idée, dans la démultiplication, c'est d'installer des gens qui vont faire leur activité avec la technique Agripolis sur des lieux tels que je les ai nommés.
Trois techniques qui sont très complémentaires et qui sont représentatives hein, finalement de ce qu'est aujourd'hui l'agriculture urbaine. Je voudrais qu'on dise un mot avant de se quitter, Hugo, de la bière, parce que ça aussi, vous savez faire aujourd'hui. À chaque fois que vous mettez quelque chose en place, vous allez jusqu'au produit fini.
Exactement, aussi une mission de l'agriculture urbaine, c'est aussi de le montrer et de voir qu'est-ce qu'il en sort, au-delà d'avoir des beaux plants de tomates sur le toit, qu'est-ce qu'on mange, qu'est-ce qu'on goûte. Et notamment, nous, on s'est lancé le pari de créer de la bière locale dans le 11e arrondissement. Donc évidemment, on n'est pas brasseur, donc on s'est associé avec un bon partenaire qui s'appelle Fauve Craft Bière. On a gagné un site de Paris Culteur, donc c'est des sites qui sont mis à disposition par la ville de Paris, sur lequel on a fait une houblonnière. Ce houblon, on l'a planté avec les habitants du quartier, on l'a récolté avec les habitants du quartier, on l'a brassé et en fait effectivement on l'a dégusté, on l'a bu. On a sorti plus de 500 litres de bière, donc on était relativement contents et on va démultiplier ce type de projet dans d'autres sites.
Et vous êtes tous les trois la preuve qu'effectivement l'agriculture urbaine c'est une réalité aujourd'hui. Merci d'être venu nous en parler sur Europe 1.
Il est 13h48. Europe 1.
On va rester ensemble bien sûr et se retrouver d'ici quelques minutes, Céline. Et on va s'intéresser à un réseau qui va bien, c'est Invitation à la ferme. A tout de suite.
Europe 1, la France bouge. Raphaël Duchemin.
Et c'est le moment, Raphaël, de découvrir l'entreprise qui va bien.
Et cette entreprise, ou plutôt ce réseau, c'est Invitation à la ferme. Bonjour Jean-Michel Péard.
Bonjour Raphaël.
Merci d'être avec nous ici au Salon de l'Agriculture. Vous êtes évidemment dans votre élément. Nous, on adore venir et on adore rencontrer des agriculteurs qui agissent. C'est votre cas. Vous êtes producteur laitier comme vos parents, comme vos grands-parents. Mais vous avez vu les conditions de travail de votre famille justement au départ et vous n'aviez pas du tout fait le choix d'être agriculteur. Ce n'est que plus tard que c'est arrivé.
Oui, c'est venu quelques années après être passé par une multinationale de l'agroalimentaire. Et puis l'arrivée des enfants en bas âge, des questions...
Trois enfants, c'est ça ?
Trois enfants, des questions sur leur alimentation. Et puis l'envie d'entreprendre et le retour à la terre. Donc en 2006 avec mon frère, puisqu'on a repris une ferme au nord de Nantes.
Alors vous faites le choix de ne pas reprendre la ferme familiale parce que vous avez dans l'idée de développer du bio et vous avez besoin de grands espaces aussi.
Oui, la ferme familiale est en Mayenne et effectivement, il fallait un peu plus de surface pour pouvoir produire la même quantité de lait. Et à l'époque, c'était malheureusement pas possible, donc on a migré vers la Loire-Atlantique.
La Loire-Atlantique et vous vous dites, qu'est-ce qu'on va faire une fois qu'on produit ? Est-ce qu'on pourrait pas aller un peu plus loin ? Et vous vient l'idée justement de mettre en commun finalement les moyens, parce que vous vous dites, si j'achète des machines pour produire mes yaourts ou pour mettre en pot, ce serait bien que je le fasse avec d'autres.
Oui, l'idée, je l'avais dès le départ. En fait, dès 2006, l'idée, c'était de créer ce réseau. Sauf que entre le plan et puis la réalité, il y a parfois quelques années. Donc, il fallait déjà que je crée un premier atelier. Donc, on l'a créé sur la ferme avec mon frère. Et le réseau, en fait, a vu le jour qu'en 2015. Donc, on a été seul pendant quelques années à produire nos yaourts, à les commercialiser sur Nantes. Et puis, en 2015, j'ai rencontré quelques têtes brûlées.
Les têtes brûlées.
Un Breton et puis un Vendéen.
Ouais, trois fermes.
Voilà. Et donc, effectivement, les Bretons sont rarement les derniers. Et donc, je leur avais expliqué mon idée de dire, voilà, on va essayer de mutualiser un certain nombre de choses plutôt que d'être chacun dans son coin. Et on va créer donc ce réseau national de fermes bio qui font de la transformation laitière.
Alors, trois au départ, voilà. Enfin, quatre avec vous, évidemment. Et puis aujourd'hui, combien de fermes ? 37 fermes ?
Exactement.
Dans l'aventure ?
Exactement, nous sommes 37 et on n'a pas l'intention de s'arrêter là. L'idée, c'est de couvrir le territoire national avec toujours le même principe, c'est on produit le lait sur la ferme, on le transforme sur la ferme et on le vend 80 km autour de la ferme.
Alors, ça a commencé avec les yaourts. On les voit si vous nous suivez sur Europe1.fr. Et crois qu'Elisabeth est en train de les tester. C'est excellent.
Avec Luc aussi. Hein.
Luc aussi.
Quel goût, Luc, vous ?
Alors, moi, je connais bien les produits bio parce que j'ai un passé un peu dans les produits laitiers bio. Ce qui est bien avec vous, c'est que votre bio est bon.
Oui, je confirme.
Ouais, parce qu'il y a eu au début de lancement des produits bio laitiers il y a quelques années. Parce que le consommateur est très sensible au bio, mais avant tout, il faut que ça soit du... Voilà, et je connais bien vos produits, et sont absolument... du fait que ça vienne directement aussi de la ferme, qu'il y a des circuits courts, c'est aussi une qualité gustative indéniable. Et bravo.
Merci.
Comment vous avez fait pour que ce réseau... Parce que vous sortez des produits régulièrement, et là, le dernier né est avec vous, c'est la glace.
Exactement, à partir d'avril.
La glace que vous avez présentée ici au salon, hein.
Oui, sur le stand de l'agence bio mardi. Ouais. Ouais.
Comment vous avez fait pour arriver à l'équilibre avec ce réseau qui est un petit peu partout en France ? C'est compliqué quand même.
Bon, non, c'est plutôt passionnant et très enrichissant en fait. Il se construit avec chacune des fermes. On a ce qu'on appelle des conseils de ferme. On se réunit trois fois par an. Donc il y a des Basques, des Bretons, des Lorrains autour de la table et on prend des décisions ensemble. On construit petit à petit le futur de nos fermes avec toujours la même envie, c'est d'en vivre quand même, deux, de faire des produits différents. En fait, on ne se positionne pas contre l'agroalimentaire, on vient proposer une alternative qui n'existait pas aujourd'hui. Et puis aussi une diffusion locale. L'idée, c'est de, un peu comme les fermes urbaines, c'est de nourrir les autochtones, la population autour de la ferme.
C'est-à-dire que l'emballage va être commun,
oui.
Mais ce qui est à l'intérieur du pot, finalement, va ressembler à ce qu'on a dans la région.
Oui, c'est le lait de chacune des fermes. Donc on a le même cacao, mais on n'a pas le même lait. Donc en fonction de la saison, de la race et de la ferme, on a un produit qui est différent.
Et on a la photo de l'agriculteur qui est sur l'emballage ?
Exactement, ouais. Pour le consommateur. Donc, en fait, il peut parcourir la France et retrouver différentes fermes, différents produits, différents producteurs. Mais par contre, il y a 80% du pack qui est le même. Ce qui diffère, c'est la photo du producteur et son nom.
Aujourd'hui, chacune des fermes arrive à vivre de ce qu'elle commercialise. Comment est-ce que vous êtes distribué, par exemple ?
Bon, on va vendre au travers de deux circuits principaux, les magasins, donc que ce soit des magasins bio, effectivement c'est les premiers concernés, c'est eux qui ont le plus de légitimité, les GMS et puis les épiceries autour de la ferme. Et puis après on va avoir un autre circuit qui se développe aussi, qui est la restauration scolaire, la restauration collective.
Il y a plus en plus de demandes.
Oui, ça progresse bien. Puis bon, la loi Egalim, on a eu le Grenelle de l'environnement qui avait déjà annoncé des chiffres assez importants de 20%, mais... la loi Egalim annonce 20% en 2022, donc on verra pour les produits bio.
On verra et en tout cas, nous, on est sûr que ça va se développer. Merci beaucoup d'être venu nous présenter le réseau. On était ravis de vous avoir avec nous dans ce réseau qui va bien aujourd'hui. Merci d'avoir été avec nous, Luc Le Sénécal, notre coach aujourd'hui.
Merci, excellent week-end.
Merci, excellent week-end à vous. Excellent week-end, Elisabeth.
Bon congé de fin de semaine.
Oui,
nos auditeurs.
On va remercier Cyrielle Cohen qui a préparé cette émission, Alexis Geoffrey, Olivier Duval, Fabien Duchesne qui était avec nous sur le stand et évidemment Nicolas Charpentier qui est aux manettes du côté du studio d'Europe 1.